La France, bonne nouvelle, absoute par les agences de notation. Le 10 ans français après le statu quo de Fitch et Moody's, le 10 ans français repasse sous les 3% à 2,99. C'est l'objet du bullshitomètre. Véronique Richlaurès nous rejoint chaque jour et un expert de marché, un économiste, un gérant vient déconstruire des idées reçues ou des effets de mode un peu trop faciles. Et aujourd'hui, Véronique se prête au jeu. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Et donc la France absoute par Moody's et Fitch, et finalement c'est bien normal. On entend beaucoup ce discours que la France mérite de garder une très très belle note financière. Mais vous vous dites « Bullshit !» Vous foudroyez. Cette idée que la note française inchangée, ben finalement c'est justifié et mérité. Pourquoi ?
Alors je foudroie. Tout d'abord, il y a pas grande surprise. Alors, quelques-uns s'attendaient effectivement à une dégradation. Moi, il me semble que le contexte politique, géopolitique, et y compris un petit peu d'une amélioration des perspectives économiques, laissait penser qu'on n'aurait pas de mauvaises nouvelles cette fois-ci. Il n'en reste pas moins que la situation est assez dramatique. Elle est dramatique pourquoi ? Parce que d'abord, on est face à une situation où à peu près tous les trimestres, on révise les anticipations. Donc, on a l'impression de naviguer à vue avec un gouvernement, effectivement, qui est confronté à des dépenses supplémentaires récurrentes, régulières, sur tout un tas de domaines, où on a des besoins effectivement très importants, et en même temps, donc des déficits très importants et une dette qui continue de flamber. Alors, ceci dit, en pourcentage du PIB, l'inflation aide encore un petit peu, mais surtout, c'est ce manque de direction qui est extrêmement gênant et qui, traditionnellement, est sanctionné par les agences, parce que précisément, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. On constate de mois en mois, j'ai envie de dire, des données qui ne sont pas bonnes, qui ne vont pas dans la bonne direction, sans en avoir la contrepartie économique.
C'est-à-dire que c'est ça qui vous inquiète le plus. C'est-à-dire que non seulement la France s'endette de plus en plus, mais c'est l'endettement non productif, moins productif, moins prometteur d'avenir que l'endettement croissant d'autres pays. Parce qu'on n'est pas les seuls à s'endetter.
On a envie, par exemple, de comparer avec les États-Unis. Alors, non pas que la situation américaine ne pose pas beaucoup de questions, hein. Mais si on regarde ce qui se passe sur le plan budgétaire, des déficits colossaux, une dette effectivement d'ailleurs peu ou prou du même niveau que la France en pourcentage du produit intérieur brut, hein. Sauf que là, il se passe rien. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement, les dépenses sont fléchées, elles sont même très très fortement fléchées vers les nouvelles technologies, le programme IRA d'une part, et puis le développement des puces électroniques, que ça donne des résultats qui seront durables ou pas. On ne sait pas, on verra bien. Mais pour l'instant, ça donne des résultats en termes de productivité et de croissance. Donc, l'État fait une avance, il assure quelque part la garantie de ce remboursement d'avance par des résultats. Nous, on fait des avances, clairsemées, un petit peu partout, sans que personne ne puisse dire d'ailleurs vers où sont fléchées ces dépenses. Et on n'en a aucune retombée, c'est même de pire en pire. En réalité, on peut calculer un indicateur de productivité de la dette publique. Hein. On le fait en comparant les gains de productivité par rapport à l'accroissement de la dette. Et là, on est clairement en territoire négatif depuis 3 ans. Hein. Alors, il faut vraiment redresser la direction vers quelque chose qui soit porteur pour se protéger du retour des agences, enfin du retour des notations négatives. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en prend pas la voie. Et il me semble que ce qui nous guette, du coup, c'est effectivement un abaissement de la note française.
Alors, on va en parler.
Très bien. Et alors, vous êtes économiste, Véronique. Mais quelle solution on peut avoir ? Parce que, si vous voulez, on fait des purpose bonds, donc des obligations fléchées, alors que les gouvernements passent leur temps à faire des gestes politiques. Il y a aussi les cycles politiques et économiques qui rentrent en question. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Je pense qu'au point de déficit et d'endettement où nous sommes, il n'y a pas 50 réponses. Une dépense, une recette. Et aujourd'hui, on a beaucoup de dépenses qui sont justifiées, hein, qui sont indispensables et qui également nous protégeront, on l'espère, notre souveraineté demain, sous réserve de garder la souveraineté budgétaire, c'est-à-dire une notation raisonnable, effectivement, et qui nous permette de continuer à emprunter sur les marchés pour précisément pouvoir faire face aux besoins environnementaux, militaires, etc. Mais je crois qu'il y a une règle d'or, quelque part, surtout quand on a un niveau d'endettement comme celui-là, c'est une dépense supplémentaire, une recette. Et à un moment donné, effectivement, va se poser de manière, et se pose déjà d'ailleurs, de manière très claire, la question des recettes publiques, donc de l'imposition en France. Alors c'est un sujet tabou, referme constamment.
Vous n'avez pas plaidé pour des hausses d'impôts, pas vous, Véronique.
Eh bien si, mais à un moment donné, mais quelles hausses d'impôts?
Alors, hausses d'impôts,
plus grande exigence quand on donne des subventions dont les montants encore sont très importants. Là aussi, subvention, résultat, on vous aide. Et en contrepartie, on attend ça. Aujourd'hui, non. Enfin, ces dernières années, c'était absolument pas le discours. Et je pense qu'on en paye les conséquences et qu'on peut pas continuer comme ça parce qu'on va s'en mordre les doigts. Et là où on va s'en mordre les doigts, c'est bien sûr au niveau du coût de la dette, mais à la limite, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, on a survécu. Mais c'est surtout par rapport au déclassement de la France, c'est un point supplémentaire. Et puis, à cette question de la souveraineté, à un moment donné où effectivement un État a besoin d'avoir les mains libres pour rassurer sur l'avenir.
Imaginons Javier Milei devient le président en France. Ben voilà, le président argentin très libéral qui, alors lui, coupe, sabre vraiment un certain nombre de... Mais sabre quoi, voilà, il sort l'épée vraiment vis-à-vis d'un certain nombre de dépenses.
Alors sauver Atos. Hein.
C'est ce dont la France a besoin ou pas? Oui, il n'aurait pas sauvé Atos, effectivement. Et pour le coup, l'État a sans doute raison de sauver une partie des activités stratégiques d'Atos. Mais c'est une dépense de plus, vous allez me dire. Ben oui, mais il faut.
Ben oui, mais à un moment donné, c'est comme un ménage. Hein,
ça ne rentre pas dans le déficit, ça, par contre.
Pardon?
L'investissement d'Atos, il ne rentre pas dans le déficit.
Oui, d'accord. Mais il n'en reste pas moins que, effectivement, c'est pas un bon exemple. Mais voilà, si on compare à Milei, effectivement, il n'y aurait pas eu cet interventionnisme. On aurait laissé les forces de marché, sans doute, et Atos disparaître, peut-être encore que.
Oui. On n'aurait pas augmenté les impôts. Vous dites qu'il faut augmenter les impôts. Dans le pays le plus imposé de l'OCDE, vous dites qu'il faut encore augmenter les impôts.
Mais c'est de la rigueur. Si vous donnez des subventions aux entreprises, il faut une contrepartie des résultats. On n'a pas cette politique de résultats. Si on veut développer et mettre les fonds nécessaires au redéploiement de notre industrie militaire, de la défense, à laquelle la France contribue particulièrement en Europe, eh bien, il faut également qu'on en ait les moyens. Donc, il n'y a pas...
Et encourager l'activité. C'est pas en imposant plus que vous allez encourager l'activité, libérer le potentiel de ce pays.
Écoutez, pour l'instant, on a quand même donné beaucoup aux entreprises pour encourager l'activité, beaucoup de, y compris de baisses d'impôts il y a quelques années. On n'en a pas vu les retombées. Il faut une politique d'investissement public qui soit fléchée pour tirer le capital là où on en a besoin. Cette politique fléchée, elle n'existe pas.
Il y a l'épargne pour ça aussi, l'orientation de l'épargne au-delà des hausses d'impôts. On peut aussi taper sur l'épargne, l'épargne réglementée qui est quand même très importante. Mais
exactement.
Moi, j'entends votre propos.
Posons-nous la question. Je crois que j'entendais Bruno Le Maire ce matin ou récemment dire si on veut que les ménages consomment, il faut qu'ils désépargnent. Et pour qu'ils désépargnent, il faut qu'ils soient rassurés. Si on n'a pas de visibilité ou de lisibilité sur la politique publique, comment voulez-vous donner de la visibilité aux ménages pour qu'ils désépargnent?
Enfin, pour le coup, ce gouvernement, on ne peut pas l'accuser de ne pas donner de visibilité sur le fait de ne pas augmenter les impôts. Il est quand même relativement constant quand même. Alors après, il y a des tours de passe-passe parfois aussi. Mais franchement, vous vous souvenez de l'époque Hollande, là où il y avait de la fiscalité rétroactive? Vous vous en souvenez de cette époque?
On se souvient de toutes ces années qui étaient extrêmement nocives, où tous les 6 mois, grosso modo, on avait un plan de restrictions budgétaires et d'augmentation d'impôts qui était extrêmement nocif. Mais je dis qu'il y a un équilibre qu'on n'a pas trouvé.
On n'a encore trouvé l'équilibre. On s'est approché de l'équilibre quand même ou pas par rapport à avant? Ah, mais franchement, Véronique, on se plaint là tout le temps. Manque de visibilité. Non, fiscalement, il n'y a pas d'énorme manque de visibilité.
On s'est approché
de
l'équilibre. On a été rassurés et baqués par l'Europe et le grand plan de relance en 2020. Et finalement, qu'est-ce qu'il est devenu, ce grand plan de relance? Qu'est-ce qu'on en a fait en France, comme dans la plupart des pays européens? C'est inadmissible. On a des urgences. Il faut y aller. On veut faire de une économie plus verte ou on est frileux. On y va à moitié. On veut se protéger contre la concurrence déloyale de certains produits chinois ou pas. Et c'est toute cette politique qui n'est pas claire, ne donne pas de guidance, qui gêne aussi l'investissement. Et si on veut débloquer l'investissement privé, il faut être clair, il faut donner des directives. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et là encore, on peut critiquer grandement néanmoins.
Moody's et Fitch ont choisi de ne pas modifier la note française, mais Standard & Poor's, ce sera le 31 mai, la perspective de la note française de Standard & Poor's est déjà négative, c'est-à-dire que Standard & Poor's pourrait, en revanche, avec une probabilité peut-être un peu plus élevée, abaisser notre note. Vous pensez que ce sera le cas ?
Avec une probabilité un peu plus élevée, avec une influence également plus élevée, c'est quand même l'agence la plus... Voilà. Et alors, le fera-t-il à 15 jours d'élection qui seront difficiles, on le sait, pour le gouvernement en place. C'est la principale question, en réalité, et c'est là que ça nous permet de prendre un peu de distance par rapport à ce pronostic des agences. C'est qu'on le sait bien qu'elles font pas, elles disent pas n'importe quoi à n'importe quel moment, et que, elles disent pas n'importe quoi, mais disons qu'elles ajustent le tir en fonction du contexte, et que peut-être qu'effectivement Standard & Poor's aimera pas intervenir à la veille d'élections cruciales pour le gouvernement. Français. Mais au-delà de ça, sinon, la probabilité que S&P baisse, downgrade la France, est très élevée, effectivement.